Nomadic Solutions est l'un des 5 premiers fournisseurs français de solutions informatiques embarquées. 50 000 boîtiers de géolocalisation à ce jour commercialisés, mais aussi des modélisations pour les entreprises, les collectivités locales et les particuliers. Philippe Orvin, homme d'affaires écologiste de la première heure, est président cofondateur de Nomadic Solutions, au micro de Pascal Marcaggi.
Vous avez commencé ça un petit peu avant tout le monde, 1997, on n'y pensait pas encore tout à fait un peu, un tout petit peu seulement.
Oui, il y avait déjà des belles expériences d'autopartage à Genève par exemple, c'est le début de sociétés comme Mobility Plus, c'était les prémices hein, avec le GSM qui commençait, GSM Data d'abord, et puis le vrai démarrage ça a été en 2004 quand le format GPRS est passé et qu'on a pu se mettre sous le format IP dès la sortie de l'émission radio.
Donc voilà, on parle de choses sérieuses. Nomadic Solutions, comment est-ce que vous avez modélisé tout ça?
Alors, quand on est une PME et qu'on est dans des secteurs innovants, on modélise pas trop. Hein. On est souvent opportuniste. C'est surtout les ventes et les marchés qui nous ont guidés. Hein. Au début, on a fait beaucoup de négoces de boîtiers de géolocalisation pour faire de la gestion sociale de personnel mobile ou de l'aide aux personnes qui sont isolées, des travailleurs isolés par exemple. Et aujourd'hui, on a vendu 50 000 boîtiers, on fait partie des gens qui comptent sur le marché de la géolocalisation. Mais très tôt, on a essayé de se diversifier vers des produits un peu écolos, enfin, qui font un peu la différence sur le marché et puis qui essayent de changer les paradigmes.
Allez, si on n'est pas écolo, votre boîtier, on s'en sert comment?
Si vous êtes en randonnée et puis que vous tombez dans un ravin, vous avez la possibilité d'appuyer sur un bouton et puis qu'on vous géolocalise pour aller chercher des secours. Ça, c'est pas forcément directement lié à l'écologie, même si c'est un peu lié à la responsabilité sociétale. Mais bon, on a dans la gamme des produits qui sont typiquement dédiés à ces changements de paradigme. On est partenaire, enfin, un site, c'est plus qu'un site, c'est un réseau social d'autopartage qui s'appelle Citizen Car, qui aujourd'hui a plus de 3000 abonnés et qui permet de faire du partage de véhicules en peer-to-peer, de particulier à particulier, et non pas basé comme un site de petites annonces, mais comme un réseau social avec la trame de confiance.
C'est un fonctionnement assez nouveau, mais qui marche assez bien, ça.
Ça marche bien, et puis c'est très pérenne dans le temps. C'est-à-dire que si on se comporte bien, on a de plus de chances d'avoir des voitures qu'on ne pourrait pas se payer, par exemple. Et donc, nous sommes partenaires technologiques, ce qui permet aux gens qui acceptent d'avoir un boîtier de géolocalisation dans leur voiture et accepter ce modèle d'autopartage avec leur téléphone portable, d'ouvrir la voiture et de l'utiliser sans qu'il y ait l'échange de clés de la main à la main entre le propriétaire et le locataire.
D'où est-ce qu'il vient ce boîtier? Taïwan?
Taïwan a toujours été indépendant, enfin c'est toujours démarqué de la Chine populaire, même si, disons au sens onusien du terme, ils font partie de la Chine. Hein, donc c'est un vrai sujet qu'on n'aborde jamais.
Comment les avez-vous rencontrés?
Alors ça, c'est l'origine de Nomadic Solutions. J'ai travaillé dans des start-up dans les années 2000, qui ont toutes fermé les unes après les autres parce qu'on dépensait le capital avant d'avoir eu la première commande. Et donc, moi, j'étais salarié de ces entreprises. Et à un moment donné, quand ça allait très mal, j'ai cherché des boîtiers pour commercialiser des sociétés qui étaient aussi dans la géolocalisation à l'époque. J'ai cherché des boîtiers, j'ai trouvé des boîtiers à Taïwan. Donc, je les ai fait venir, donc j'ai testé. Et ce qui avait de la peine à fonctionner en France, j'ai mis une carte SIM dans la boîte dès que c'est arrivé. Et ça a fonctionné du premier coup. Donc j'ai continué avec eux. Et en cours de route, il y a une autre personne qui s'appelle Patrick Minot, qui est le cofondateur de Nomadic Solutions. J'ai reçu son numéro de téléphone par Taïwan en disant « Il y a un Français qui veut distribuer nos produits en France aussi. » Et donc c'est l'origine. J'ai eu cet appel téléphonique alors que je travaillais au Havre. Ce monsieur Minot en question habitait à 8 km de mon domicile. Donc c'est mis en relation par des gens qui étaient à 7000 km. C'est quand même formidable.
Le fait d'appeler New York pour avoir un IR, c'est quelque chose qui ne vieillit pas.
Hein. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Et donc ça, c'est l'origine. Donc avec Patrick Minot, on a regardé pendant 6 mois, on a regardé ce qu'on pouvait faire ensemble et puis on a décidé de fonder Nomadic. Donc Nomadic qui a été une société lauréate de Melun-Val-de-Seine Initiative, qui a été après lauréate du réseau Entreprendre, qui est extrêmement soucieuse de sa responsabilité sociétale. Dans les PME qui partageons par exemple la marge brute de nos revenus le mois, avec tous les salariés, pas seulement ceux qui vendent. On a une forte volonté de changer le paradigme du patron égoïste. I lost my way, like I lost my way, so no loose ends, and I'm finna see me down. How are we going to work this?
Combien avez-vous de salariés qui bénéficient comme ça de ce traitement ?
7, c'est pas beaucoup. Mais bon, on est dans une dynamique où on a des gros marchés qui risquent de s'ouvrir à nous, dans le domaine du covoiturage, de l'autopartage, de l'éco-conduite. Alors l'éco-conduite, c'est quelque chose qu'on a mis en œuvre avec des boîtiers qui recueillaient les données du calculateur des véhicules, qui est un boîtier sans contact, dont la licence et le brevet a été racheté par Masternaut aujourd'hui. Et donc on s'est rendu compte que c'était extrêmement compliqué à mettre en œuvre et que c'était pas à la taille d'une société comme Nomadic Solutions, puisque sur chaque véhicule, il faut reparamétrer le boîtier pour qu'il puisse lire les données du CAN qui sont absolument pas standardisées. Et donc on s'est rendu compte, nous, en faisant des essais avec les données CAN et avec des accéléromètres, que si on considère les vitesses et les accélérations et qu'on met en regard les consommations, par exemple, il y a des courbes qui sont relativement homothétiques. Et donc on s'est dit, pourquoi pas essayer de trouver un algorithme qui permette, à partir des données cinématiques et dynamiques, c'est-à-dire les vitesses et les accélérations du véhicule, ne pas essayer de reconstituer les données de consommation et d'attitude de conduite. Et bingo, ça a fonctionné. Alors, notre produit ne fonctionne pas pour les poids lourds parce que ça fonctionne à isocharge, mais en termes d'attitude de conduite, on a des résultats qui sont assez satisfaisants et qui permettent de voir si les gens ont bien compris les formations qu'ils ont reçues à propos de l'éco-conduite. Puisque l'éco-conduite, c'est le bénéfice de tout le monde. C'est pas un outil de flicage. Il y a 12 milliards de litres d'énergie fossile qui sont consommés tous les jours sur la Terre. C'est la réflexion qui nous pousse à porter le message de l'éco-conduite un petit peu chacun. Ça peut faire quelque chose pour tout le monde.
Votre engagement, justement, puisque vous en parlez, c'est de longue date. Hein.
Oserais-je dire que je votais René Dumont en 1974. Donc oui, c'est de longue date. L'écologie et la sauvegarde du monde passent par des changements de paradigme importants. Quand on a vu et on a vécu comme nous on l'a vécu, les sociétés de consommation à outrance où on fout tout en l'air parce qu'il y a un petit truc qui ne va pas, et où les produits sont conçus pour avoir une durée de vie très limitée de façon à augmenter les parts de marché. C'est des choses qui sont absolument stupides et donc qu'il faut changer. Ça, c'est mon opinion et je la partage.
Revenons à l'éco-conduite. C'est valable aussi donc pour la voiture électrique.
Contrairement à ce que je croyais au début, puisque quand on freine avec une voiture électrique, on restitue de l'énergie dans les batteries. Donc je pensais que l'éco-conduite était beaucoup moins utile. Les tests ont prouvé que si on bourrine sur une voiture électrique, on consomme davantage parce que le rendement des moteurs n'est pas le même. Quand on a des accélérations fortes et quand on a des faibles accélérations, le moteur a un meilleur rendement quand il y a des accélérations faibles. Donc c'est important aussi d'éco-conduire quand on est au volant d'une voiture électrique. Et ça, c'est à ma grande surprise parce que j'étais persuadé que ça servirait à rien. Et c'est pas vrai.
Alors, question innocente, est-ce que les deux boîtiers, les deux techniques, géolocalisation et éco-conduite.
L'éco-conduite ne géolocalise pas, c'est-à-dire qu'on l'a fait exprès, parce qu'il y a quand même des gros freins sociaux à la géolocalisation qui sont quand même un petit peu en train de disparaître avec les Facebook et autres qui géolocalisent tout le monde n'importe quand et tout le monde s'en fout. Alors que quand c'est dans le cadre du travail, c'est peut-être un petit peu plus touchy. Quoi qu'on ait été quand même dans les premiers à être interpellé par la CNIL et puis à donner notre avis sur comment on devait géolocaliser quelqu'un au travail. C'est-à-dire qu'on peut noter quand même qu'on a donné notre avis sur la possibilité de mettre un bouton vie privée dans les voitures de fonction. C'est un avis qu'on a donné à la CNIL en 2005 avant qu'ils fassent leur directive sur la localisation de gens au travail. C'est-à-dire que Nomadic a eu sa part de responsabilité dans la protection des libertés individuelles des travailleurs. On n'est pas à la foire d'empoigne, quoi. On a le droit de ne pas être localisé quand on a sa voiture pendant le week-end, par exemple, et que c'est une voiture de fonction. Ça ne désactive pas le mileage, l'enregistrement des kilomètres parcouru, mais ça désactive la position, c'est-à-dire que pendant le week-end on ne peut pas tracer l'endroit où vous avez été.
Nomadic, dans l'avenir, d'ici 10 ans, vous vous voyez comment vous-même ?
Alors, d'ici 10 ans, je me vois en retraite, moi. Enfin, parce que même si ça recule d'année en année, je pense qu'un jour, je vais y arriver. Mais j'ai 58 ans, donc 59 bientôt.
Il faut avoir de l'éco-conduite professionnelle aussi, quand même, un petit peu.
Mais je pense que, de toute façon, ce qu'on a mis en place, c'est pérenne, parce que c'est un petit peu en avance de phase, pas trop. On a fait des boîtiers aussi pour faire du covoiturage dynamique, pour pouvoir donner une traçabilité aux covoiturés et aux covoitureurs. Là, on essaye de faire en sorte que pour que ça prenne dans les petits trajets, parce que le covoiturage, ça marche très très bien pour des Paris-Lyon, Paris-Rennes. Mais par contre, pour du petit trajet urbain, c'est quand même... pas aussi facile que ça.
Par exemple, quelqu'un a son boîtier dans sa voiture et donc il peut, pas au dernier moment, mais bon, entrer en contact avec la personne.
C'est exactement ça. Nomadic est également très actif dans le pôle de compétitivité Advanced City, qui est Ville et Mobilité Durable. Je suis au conseil d'administration et je suis également vice-président d'un comité d'orientation stratégique qui s'appelle NUM, Nouveaux Usages et Mobilité. Et on est sur un projet avec la société GIS, avec la société Transway aussi qui fait les Soleios. Ces gens de Transway font de l'incentive pour les gens qui ont des déplacements vertueux. On gagne des soleils et on a des cadeaux. Il y a beaucoup de collectivités territoriales qui s'intéressent à ce produit par le déclaratif pour l'instant et puis peut-être après, en ayant une traçabilité automatique qui permettrait de savoir dans quel type de transport on se déplace et si on est vertueux ou pas.
Justement, vous avez parlé des collectivités locales. La Seine-et-Marne, c'est un département relativement étendu.
La Seine-et-Marne est particulièrement en pointe. Le Conseil général de Seine-et-Marne fait partie d'Advanced City. Et donc, effectivement, comme c'est très étendu, il y a beaucoup d'expérimentations qui sont possibles. Mais il y a également, pour que ça fonctionne, tout un pan qu'il faut bien comprendre, c'est la densité de population. C'est-à-dire que moins il y a de densité de population, plus les expériences sont dures à mener. Donc ça, c'est un peu dur en Seine-et-Marne, surtout dans la partie sud. Et donc, que ce soit dans les projets de covoiturage, d'autopartage ou de télécentre même, pour le télétravail, il y a des initiatives qui sont très très fortes dans le département et dans les collectivités territoriales associées.
Comment est-ce que vous concevez l'écologie? Alors, toujours en cravate.
Toujours en cravate. L'écologie, je la conçois comme étant une construction de l'avenir et pas comme un effondrement de ce qui existe. C'est-à-dire que pour construire l'écologie, il ne faut pas enlever la brique qui est tout en dessous et que le château se casse la figure. Il faut essayer de construire avec ce qu'on a et de produire plus intelligemment et des produits plus responsables.